Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Vatican. Voici les titres de cette édition. La semaine du pape, les nouvelles de l'église Famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo et au Togo constitueront les points saillants de l'actualité de l'église. L'Afrique du Sud se sent punie pour avoir détecté le nouveau variant Omicron. C'est ce qu'a fait savoir le gouvernement sud-africain samedi. Plus de détails dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira au Burkina Faso, au Niger, en Algérie, entre autres. À tous et à toutes, merci d'être des nôtres. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
La synthèse des activités du Saint-Père au cours de la semaine qui s'achève, c'est dans la semaine du pape. Stanislas Kambashi.
Dans la journée de samedi, le pape a reçu successivement en audience Mgr Paolo Rudelli, nonce apostolique au Zimbabwe, ensuite son Excellence Anthony, métropolite pour l'Europe centrale et occidentale de l'Église bulgare orthodoxe, puis Mgr Stefan Ackermann, évêque de Trier en Allemagne. Samedi, le Saint-Père a également reçu M. Edi Rama, Premier ministre de la République de l'Albanie, à l'occasion de la fête nationale de l'Albanie et du 30e anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre les Saint-Sièges et l'Albanie. Après sa rencontre avec le pape, le Premier ministre albanais a également rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, ainsi que Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les rapports avec les États. Dans la salle Clémentine au Vatican, François a en outre reçu samedi les organisateurs du festival interculturel Javera du diocèse de Treviso dans le nord de l'Italie qui promeut les dialogues et la rencontre entre les cultures, notamment à travers la musique et les danses. Beaucoup d'émigrants participent à ces festivals. Dans les discours qu'il leur a adressés, le pape a encouragé les organisateurs à faire de leur festival une rencontre de cohabitation et qui promeut la culture de la rencontre et du respect de la dignité de personne. À quelques jours du voyage apostolique du pape en Chypre et en Grèce, qui aura lieu du 2 au 6 décembre prochain, François a envoyé à ces deux peuples un vidéo-message exprimant sa joie de les rencontrer bientôt et décrivant son voyage comme un pèlerinage aux sources. Au chapitre des nominations, le Saint-Père a nommé évêque de Bafoussam au Cameroun, Mgr Paul Lontier-Kené, qui était jusqu'ici évêque de Yokadouma, toujours au Cameroun. Le pape a également nommé membre ordinaire de l'Académie pontificale des sciences sociales M. Martin Maximiliano Guzman, qui est ministre de l'économie en Argentine. Le Saint-Père a par ailleurs nommé membre ordinaire de l'Académie pontificale pour la vie les professeurs Chris Gastmans et Laura Palazzani. Osons rêver l'avenir, prendre soin des hommes et de la terre. C'est le thème de l'édition 2021 des Semaines sociales de France, inaugurée vendredi en France. Dans un message signé par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, le pape encourage les participants à ne pas avoir peur de rêver, car si le rêve est partagé et porté ensemble, il devient une réalité nouvelle. Au courant de la semaine qui vient de s'achever, les activités du pape ont notamment été marquées par différentes rencontres avec des personnalités ecclésiastiques et politiques, par des nominations, par l'envoi des vidéos-messages, mais aussi par d'autres publications.
Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a adressé vendredi un vidéo-message aux participants à la première rencontre nationale italienne autour du thème « Gardien de la création ». La rencontre organisée par la Fondation Sorella Natura, Sœur Nature, a lieu du 26 au 28 novembre à Assise. Le cardinal Parolin a particulièrement souligné la stratégie adoptée par le Saint-Siège l'année dernière de la réduction à zéro des émissions carbone, notamment par l'éducation écologique. À l'occasion de la conclusion de la célébration des 50 ans de la naissance au ciel du bienheureux Jacques Alberione, le cardinal Marcello Semeraro, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, a célébré vendredi la messe de clôture. On prépare à la célébration eucharistique les membres des différentes branches de cette famille religieuse. Le cardinal Semeraro a particulièrement indiqué Don Alberione comme quelqu'un qui suivait l'exemple de Jésus. Voix, vérité et vie. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit en République démocratique du Congo, où les évêques membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale de ce pays ont été reçus par le président de la République, M. Félix Tshisekedi.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le vendredi 26 novembre les membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Le nonce apostolique, Mgr Ettore Balestrero, a accompagné les évêques qui avaient clôturé le jeudi 25 novembre une rencontre extraordinaire portant notamment sur l'éducation chrétienne et sur la collaboration entre l'Église et l'État, s'agissant par exemple du processus électoral. Le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, est optimiste sur cette collaboration.
Nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent. L'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale. Il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra, mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler. Ce mécanisme doit être déclenché dès aujourd'hui. Donc ce sont là les points autour desquels nous pouvons fédérer, mutualiser nos forces pour aller de l'avant afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais et à choisir des personnes idoines qui seront à mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais.
Jean-Baptiste Malingi Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Togo, le mouvement chrétien du monde rural, dénommé Jeunes et Adultes Ruraux Chrétiens, a totalisé 60 ans depuis sa fondation par Mgr Barthélemy Henrion, premier évêque de Dapaon. Notre correspondant nous en parle.
1961-2021, il y a 60 ans, son Excellence Mgr Pierre Barthélemy Henrion, premier évêque du diocèse de Dapaon de vénérée mémoire, a créé le mouvement chrétien du monde rural, dénommé Jeunes et Adultes Ruraux Chrétiens, JAC en sigle. La messe d'action de grâce de ce jubilé d'émeraude a eu lieu ce mardi 23 novembre à l'église Saint-Paul, apôtre des nations, et présidée par son Excellence Mgr Dominique Guigbil, actuel évêque du diocèse. Composé de près de 600 groupements paysans à travers la région des savanes, dont les limites géographiques correspondent à celles du diocèse, la JAC a quatre volets d'activité. L'alphabétisation des adultes dans les villages et dans les villes, le volet agriculture pour former, assister et outiller les paysans en matière de technique agricole, l'hydraulique pour procurer de l'eau potable aux populations et la promotion féminine qui a développé la formation des femmes et des jeunes filles dans la fabrication du savon, le tissage artisanal et la couture notamment. La JAC n'est pas une simple organisation philanthropique, a précisé Mgr Guigbil dans son homélie. Elle est un important instrument de l'Église pour l'évangélisation et le développement. Outre les nombreux jacistes venus de tous les coins du diocèse pour rendre grâce à Dieu, des partenaires locaux, notamment les représentants des institutions de l'Église et de l'État, ainsi que la Fédération des ONG de la place, ont pris part à la cérémonie. Gustave Wam, Dapaon pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Quatre personnes ont été tuées dans des violences à caractère communautaire à Bassankusu, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, où plus de 200 maisons ont été également incendiées, a-t-on appris samedi de sources administratives locales. La police burkinabé qui a dispersé samedi matin à l'aide de gaz lacrymogène plusieurs centaines de personnes qui souhaitaient manifester à Ouagadougou contre le pouvoir lors d'un rassemblement interdit par la mairie. Précisons que le rassemblement des manifestants qui souhaitaient dénoncer l'incapacité du président Rochemaque Christian Kabore à faire face à la violence djihadiste qui ravage le Burkina avait été interdit par la mairie de Ouagadougou. L'Afrique du Sud, dont les citoyens sont devenus persona non grata partout dans le monde après l'annonce d'un nouveau variant inquiétant, se sent puni et injustement traité alors que ce sont ces scientifiques qui l'ont découvert et ont rapidement sonné l'alarme. Le gouvernement estime n'avoir rien à se reprocher et dénonce sa stigmatisation pour être l'annonceur de mauvaises nouvelles, à l'instar d'une multitude d'internautes sud-africains aussi indignés qu'inquiets. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a exprimé vendredi soir sa reconnaissance envers la France, dont il a salué les sacrifices dans les pays du Sahel au moment où les critiques contre la présence militaire française dans certaines régions se multiplient. De tous les pays qui sont engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, la France est le pays qui consent le plus de sacrifices, a affirmé M. Bazoum dans un entretien à la radio-télévision nigérienne. Toujours au sujet de la France, le président algérien Abdelmajid Tebboune avait prédit vendredi un retour à la normale des relations avec la France en pleine crise, à condition qu'elle se fasse sur une base d'égal à égal. Le président français Emmanuel Macron avait déclenché la colère d'Alger après des propos rapportés le 2 octobre dernier par le quotidien français Le Monde, accusant le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle. D'après le quotidien, il avait questionné l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. En signe de protestation, l'Algérie a rappelé son ambassadeur en France et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français desservant le Sahel, où sont déployées les troupes de l'opération anti-djihadiste Barkhane.
Radio Vatican, Français Afrique, Françoise Niamier.
Un ministre en fonction et ex-chef rebelle incarcéré il y a une semaine en Centrafrique, accusé de crimes de guerre et contre l'humanité, a été exfiltré vendredi de sa prison de Bangui par des gendarmes, une entrave à la justice, dénonce la cour spéciale qui l'avait fait arrêter. La Centrafrique est le théâtre depuis 2013 d'une guerre civile d'abord très meurtrière, mais qui a considérablement baissé d'intensité après 2018. Le père jésuite Antoine Curiel nous introduit à la méditation avec les lectures du premier dimanche de l'Avent à Nessé.
Aujourd'hui, nous entrons dans l'Avent. Nous commençons donc le chemin qui nous conduira jusqu'à la fête de Noël. Nous attendons, nous espérons et nous veillons. Dans quelques pays que nous vivions, les mois que nous venons de traverser ont été marqués par de grandes inquiétudes sanitaires, peut-être même par des épreuves que nous-mêmes ou nos proches traversons. Notre monde a vécu au ralenti. De vives interrogations ont mis en cause nos modes de développement, nos choix de société, nos façons d'être en rapport les uns avec les autres. En ce temps de l'Avent, que veut dire pour nous attendre, espérer, éveiller, revenir au monde d'avant ? Ne serait-ce pas plutôt accueillir la nouveauté de Dieu dans nos vies personnelles et collectives? Dans la première lecture de ce dimanche, le prophète Jérémie annonce au peuple d'Israël et à la maison de Juda « Je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. » Qui de nous, dans quelque pays que nous nous trouvions, en quelque époque que nous vivions, ne porte pas une telle espérance? Nous sommes parfois happés par la dureté des relations qui détruisent nos familles, affaiblissent nos communautés, ou menace la bonne entente entre nos pays. Il arrive aussi que nous soyons complices de ces violences physiques ou psychiques. Alors laissons-nous rejoindre par la manière dont Jérémie, comme tant d'autres prophètes de la Bible, parle du salut en termes de justice. Arrive le salut lorsque s'établissent de justes relations entre les habitants d'une même terre. L'attente que nous vivons n'est pas passivité. Nous sommes appelés à la conversion pour reconnaître la manière dont Dieu vient à nous. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, l'apôtre Paul appelle les Thessaloniciens à approfondir leur vie fraternelle. Que le Seigneur vous donne entre vous, et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Paul invite les Thessaloniciens à se mettre en route, sans cesse, afin de faire de nouveaux progrès. Comme les Thessaloniciens autrefois, nous pouvons, nous aussi aujourd'hui, accueillir cette invitation à faire en sorte que notre vie de foi se manifeste toujours plus concrètement dans nos relations mutuelles. L'approfondissement de notre vie de foi passe par notre contribution à l'édification d'une vie plus fraternelle, plus soucieuse du respect dû à chaque être humain, plus attentive aux dons de Dieu. Cela est vrai aussi pour nous aujourd'hui, et en particulier dans nos pays touchés par une grave crise sanitaire. Oui, notre espérance est active et nous veillons pour repérer le règne de Dieu qui vient. L'évangile de ce jour présente cette veille en faisant référence à de grands cataclysmes. Les astres du ciel, soleil, lune et étoiles s'affolent et les nations sont saisies de peur. Nous ne devons pas nous laisser paralyser par ces événements terrifiants dont nous pourrions sans peine allonger la liste. Redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption approche, lance Jésus à ses disciples. Nous le savons déjà, nous qui nous préparons à fêter Noël. Le prince de la paix viendra à nous dans un enfant. Il ne nous rejoindra pas avec la puissance et la majesté auxquelles nous prêtons tellement attention dans nos relations humaines, mais en un enfant. Les bergers et les mages sauront reconnaître en cet enfant celui qui renouvelle leurs existences en profondeur, celui qui montre le chemin de la vie en Dieu. Puissions-nous avoir le cœur des bergers et des mages pour nous ouvrir en ces temps de l'Avent à la vie de Dieu, y compris dans les difficultés de notre quotidien.
La suite de notre programme, c'est avec le père jésuite Martin Bahati qui continue de nous présenter l'encyclique du pape Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui dans la lecture méditative de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale, nous entamons la lecture du sixième chapitre de l'encyclique. Ce chapitre est intitulé « Dialogue et amitié sociale ». Il est composé de quatre points, à savoir 1. Le dialogue social pour une nouvelle culture. 2. Le fondement des consensus. 3. Une culture nouvelle. Et 4. Retrouver la bienveillance. Selon l'encyclique, se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume dans le verbe « dialoguer ». Pour nous rencontrer et nous entraider, continue le document, nous avons besoin de dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit d'imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et communautés. Selon le pape François, le dialogue persévérant et courageux ne fait pas la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. Parlant du premier point, le dialogue social pour une nouvelle culture, le pontife montre que certains essaient de fuir la réalité en se réfugiant dans leur monde à part. D'autres l'affrontent en se servant de la violence destructrice. Cependant, entre l'indifférence égoïste et la protestation violente, il y a une option toujours possible. Le dialogue. Et le pape de continuer. Le dialogue entre les générations. Le dialogue dans le peuple, car tous nous sommes peuple, la capacité de donner et de recevoir en demeurant ouvert à la vérité. Un pays grandit quand dialogue de façon constructive ses diverses richesses culturelles. La culture populaire, la culture universitaire, la culture des jeunes, la culture artistique et technologique, etc., etc.
Invité du jour.
Le Le 10e anniversaire de l'exhortation apostolique Africemunus du pape Benoît XVI sur l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, nous en reparlons avec notre invité du jour, Monsieur Étienne Locke. Historien, théologien, il est chercheur à l'Université Ouverte de Catalogne, à Barcelone, en Espagne. Monsieur Locke est le directeur scientifique du Centre canadien de recherche interdisciplinaire sur l'Afrique qui a organisé du 17 au 19 novembre dernier, par visioconférence, un colloque sur le thème « Africemunus, 10 ans après ». Il commence par nous situer sur les objectifs de ce colloque. On écoute.
Le premier objectif était de faire revivre la mémoire de cette exhortation apostolique, de rappeler qu'un document comme celui-là a été donné à l'Afrique, pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Dans un premier temps, il s'agissait de rappeler que c'est un document important qui a été donné, qu'il importe de garder en mémoire. Dans un second temps, il s'agissait de faire une sorte d'évaluation. Maintenant que 10 années sont passées, où en sommes-nous? Est-ce que ce document qui avait été remis aux églises d'Afrique comme une sorte de feuille de route, quel a été son impact jusque-là? Donc une sorte d'évaluation 10 ans plus tard de l'impact de cette exhortation apostolique post-synodale et aussi questionner la manière dont les églises d'Afrique se le sont appropriées, si elles se le sont appropriées.
Qu'est-ce qui ressort de cette évaluation?
Alors, il ressort que certaines choses ont été faites, qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a que les églises d'Afrique doivent se mettre au travail. Je dis doivent parce que l'exhortation reste actuelle, l'interpellation reste actuelle. D'ailleurs, nous avons eu à discuter avec le président du CHEAM, le cardinal Philippe Ouédraogo, qui, par sa présence, représentait les évêques d'Afrique. Et nous pensons que la collaboration qui pourrait exister entre le Centre canadien de recherche interdisciplinaire sur l'Afrique qui a organisé le colloque et les églises d'Afrique, voilà, produira quelque chose de bien, contribuera à éveiller le dynamisme des églises d'Afrique à la réponse qu'il convient de donner à cette exhortation qui en fait est un appel à travailler au service de la réconciliation, de la justice et de la paix.
Alors, différents points donc ont été abordés concernant cette exhortation apostolique 10 ans après. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques-uns de ces points et nous dire ce qui est à retenir?
Par exemple, l'éducation en Afrique, comment est-ce que, dans le contexte actuel, l'éducation en Afrique devrait être envisagée? Comment est-ce que l'implication des laïcs devrait être envisagée? Comment est-ce que les églises d'Afrique devraient assumer les responsabilités qui sont les leurs? Comment est-ce que les questions d'ordre financier doivent être aujourd'hui portées par les églises d'Afrique? Qui en fait sont appelés à sortir de la dépendance de cette situation qui fait en sorte que, et non pas la liberté de leurs actions parce que il y a beaucoup d'entraves qui se posent à elles. J'entends par là les entraves financières, mais nous avons également abordé la question du discours théologique même. Qu'est-ce que le discours théologique, la théologie africaine vaut aujourd'hui, ou alors quel rôle cette théologie peut jouer au sein de ces églises d'Afrique comme un discours qui exprime ce que l'Africain d'aujourd'hui dit, veut et y attend.
Vous avez mentionné la participation du cardinal Philippe Ouédraogo, président du CHEAM, à ce colloque. Y a-t-il eu des propositions au CHEAM?
Il y a eu des propositions. Sur le plan financier, nous exhortons les églises d'Afrique à se prendre en charge, à développer des stratégies pour atteindre l'autonomie qui est pour elles quelque chose de nécessaire. Sur le plan théologique, il est important que le discours théologique africain se poursuive. Il importe aujourd'hui que les églises d'Afrique, notamment les évêques, qui en ont charge, promeuvent la réalité du discours théologique en Afrique, c'est-à-dire un discours qui assume, un discours théologique qui est capable d'articuler de manière courageuse les questions de légitimité politique, les questions d'indépendance économique. Nous avons par exemple parlé aussi de l'éducation comme vraiment devant être une œuvre sociale. Ce que nous émettons comme souhait, c'est que les écoles catholiques redeviennent des œuvres sociales, c'est-à-dire au service de l'homme, au service, j'allais dire, du pauvre. En fait, nous souhaitons que l'Église joue, se tienne aux côtés du peuple.
Alors, pensez-vous que l'Église ne fait pas déjà cela?
Je dis bien, nous encourageons. Donc, nous reconnaissons que cela est fait et nous exhortons l'Église à faire davantage, à faire toujours plus.
En ce qui concerne la réconciliation, la justice et la paix, quelles ont été les propositions dans ce sens?
Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice si On ne considère pas que voilà, l'unité humaine est le socle de toute œuvre de justice. Donc, nous n'avons pas séparé ces questions relatives à la justice, la paix, la réconciliation de ce dont je viens de parler. Si vous éduquez les hommes, vous préparez un monde juste, préparer donc un monde pacifié. Si vous laissez perdurer les injustices, vous allez arriver à des conflits. Si on n'éduque pas les citoyens, les peuples à la citoyenneté, on aura toujours des régimes politiques à la légitimité contestable, tels qu'on en a aujourd'hui en Afrique. Donc en fait, en abordant toutes ces questions qui sont des questions de société, les conflits, les injustices, les questions qui sont des entraves à la réconciliation ne sont que des conséquences. La meilleure manière de s'attaquer à ce genre de problème, c'est de les prévenir. Et si on veut les prévenir, il faut travailler à la base. Et la base, c'est la reconnaissance, la dignité de l'homme.
Que doit faire l'Église dans ce sens-là?
Nous souhaiterions voir des églises d'Afrique plus engagées aux côtés des populations marginalisées, aux côtés des populations fragiles. Nous émettons le vœu de voir l'Église se détacher de toute compromission avec des régimes politiques qui travaillent pas du tout pour le confort des populations ou des peuples. Nous souhaitons voir l'Église éduquer l'homme pour que celui-ci soit responsable et devienne un citoyen capable d'exercer ses droits civiques et politiques comme il se doit.
Monsieur Locke, est-ce là votre mot de fin?
Mais notre mot de fin, c'est que cette exhortation apostolique post-synodale continue d'avoir un impact, et un impact dans les 10 prochaines années, un impact encore plus grand que celui qu'il a pu avoir ces 10 dernières années.
Monsieur Étienne Locke, président du Centre canadien de recherche interdisciplinaire sur l'Afrique.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de l'avoir suivie en notre compagnie et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. Au revoir.
Pour l'école de la paix de mon Dieu.